Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alléluia. À toi Dieu notre louange, à toi. Alléluia, le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre
esprit. Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Selon Saint-Luc, gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Toute la nuit, il priait Dieu. Quand le jour vient, quand le jour fut venu, pardon, il appela ses disciples. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, auquel il donna le nom de Pierre. André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu. Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, fils de Jacques. Et Judas Iscariote, qui devint le traître. Jésus descendit de la montagne avec eux. Il s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à toucher Jésus. Une force sortait de lui qui les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes. Recouvre l'or de la terre de sa lumière vivante. Qu'elle pénètre en toute chair, assoiffée de sainteté virginale toute pure, divine et éternelle, céleste et immaculée. Qu'ils puissent cela voir devant leurs yeux dès cette terre. S'ouvrir les portes de la Jérusalem d'en haut, libre de tout entrave. Elle avait de toute faute au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louange à toi, alléluia. Louange à toi, alléluia. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia. Nous sommes venus ici pour nous arrêter. Ce que nous dit Magnificat pour les deux saints apôtres. Celui qui a été choisi pour naître de la même naissance que le Verbe de Dieu. Celui qui a été choisi, autrement dit, parce qu'il sait qu'il a pu connaître la parole de Dieu. Il se trouve devant les hommes, devant la création, devant Dieu, et le don reçu. Comme celui qui n'a pas le droit, qui n'a plus le droit de ne pas la recevoir, et de ne pas naître comme engendré du Verbe de Dieu. Pour naître avec lui comme engendré de Dieu. Et une fois que nous le recevons, en recevant la parole de Dieu, nous n'avons plus le droit non plus qu'elle ne s'incarne pas en nous. Et une fois que l'incarnation se réalise en nous, comme étant son propre univers, nous n'avons plus le droit de la garder pour nous seuls, de garder cette vie divine partagée, éternelle, de l'engendrer de Dieu. Nous n'avons plus le droit non plus, à partir de cet instant, de ne pas appartenir à ceux qui attendent son accomplissement et qui sont, pour ainsi dire, les instruments choisis pour qu'elle advienne. Alors, au fond, c'est pas la même chose, c'est vrai, d'être prêtre, prophète et roi, c'est-à-dire avoir été baptisé, c'est une chose, et c'est une autre chose que d'être disciple. Le disciple, il met ses pas dans les pas de Jésus, pas à pas, un pied, l'autre pied encore, toujours dans les pas de Jésus. Et c'est une autre chose encore, c'est une cinquième chose que d'être apôtre. C'est vraiment le Verbe de Dieu qui s'exprime à partir de la Créateur accompli terminal de Dieu. Deux fois six. Ce qui ouvre la porte, ce qui doit ouvrir la porte à la création tout entière de l'entrée dans le repos éternel de Dieu. C'est ça, 2 fois 6, 12. Le Père engendre Dieu lui-même partout et de manière absolue. Ils sont 12. Et 12 à adorer en esprit en vérité, parce que l'adoration c'est un, en esprit en vérité c'est les deux autres personnes. Et être apôtre, c'est être choisi pour être apôtre, c'est pas la même chose. Et comme le dit le texte proposé par Magnificat, c'est vrai. On peut être choisi pour naître, pour connaître, c'est-à-dire pour naître indivisiblement à la même naissance que celle de l'engendré éternel de Dieu, qui est Dieu lui-même, engendré de Dieu, lumière née de la lumière, Inspiration active dans l'aspiration active. Alors à ce moment-là, effectivement, on est à bord. Une autre chose que d'être disciple, disciple c'est suivre Jésus partout où il va, c'est de pouvoir s'enfoncer dans sa, dans son union hypostatique déchirée. C'est une très belle chose d'être disciple, et c'est une chose encore que de recevoir le baptême, recevoir l'autorité, recevoir la royauté, recevoir cette capacité de, qui va plus loin que la matière. Même la matière, je veux dire, brûlée par Dieu. C'est le baptême qui fait ça. On est vainqueur du temps. Hein. La matière brûlée par Dieu, c'est, si on veut, hein, quand, d'une certaine manière, quelque part, hein, il y a quelque chose, une possibilité pour la matière vivante d'être entièrement brûlée par le feu du Saint-Esprit. Dans le oui, ça a donné l'Immaculée Conception. Donc ça prouve que c'est... Avec l'Immaculée Conception, on a la preuve que la matière vivante peut être brûlée par l'Esprit Saint. Mais il y a aussi la matière inerte, elle peut être brûlée comme ça. Alors à ce moment-là, quelque part, il y a la matière spirituelle. Dans l'au-delà du mystère de la résurrection, de l'ascension, quand tout se déchire et laisse place à, la, à cet au-delà. Ce qu'on peut appeler le parfum, c'est vrai, le parfum glorieux. Alors là, tout ce qui est matière, dans l'au-delà, ce qui glorifie le Père, dans le Fils, la puissance du Saint-Esprit, mais dans la splendeur, alors à ce moment-là, ça, tous les éléments de matière ne sont plus que vie et lumière, alors que la matière n'est pas vie, la matière n'est pas lumière. Dans notre monde, le tachyon, c'est une matière qui défie les lois du temps. C'est comme une espèce d'icône, une image ressemblance de la matière. Lorsqu'elle est fondue dans la vie et la lumière, au-delà du mystère de l'ascension, dans la Jérusalem spirituelle, glorieuse. Comme une espèce de preuve, pas preuve, c'est pas ça, mais d'image ressemblance. De cette ascension fulgurante qui nous permet de rentrer dans le... Dans. Plus loin que l'ascension, par la foi. Et à ce moment-là, dans ce monde incréé qui brûle, le monde créé tout entier, il n'y a plus que de la lumière, tout est vie. Alors non seulement on peut traverser tous les espaces et tous les temps, voilà, c'est le tachyon, c'est l'image ressemblance, la base analogique, si on peut dire comme ça, si on est théologien. Mais la matière, c'est-à-dire le corps du Christ, la subsistance dans le Verbe de Dieu, devient subsistance dans le Verbe de Dieu, subsistance de lumière, lumineuse et vivante du Verbe de Dieu. Il fait subsister tout dans sa non-engendrement éternel. Bon, ben, ceux qui connaissent cela, c'est-à-dire ceux qui naissent dans leur vie intérieure avec ça, eh bien, sont choisis. Et c'est beau de savoir ça. Choisi, eh ben, il faut que cet engendrement éternel de Dieu vienne s'incarner à travers nous. Il faut recueillir et accompagner l'incarnation de cet engendrement éternel. C'est vraiment une un choix descendant de l'ultime, de la splendeur, de la magnificence de Dieu, vers. Parce que nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel. Pour ça que l'Apocalypse, c'est quelque chose de magnifique comme révélation. Parce qu'elle nous montre précisément cette rencontre prodigieuse des anges qui montent et qui descendent. Et que cet don descendant, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu se conditionne le monde ascendant. Nous avons été choisis par Dieu. C'est extraordinaire de savoir ça. Qu'un enfant, au moment où il va être avorté, est illuminé. Une espèce de parole est donnée. Le Verbe de Dieu vient l'illuminer à l'instant où il vient dans ce monde. Et lui apporter cette bonne nouvelle qui peut dire immédiatement oui à cet engendrement. Pour pouvoir monter au ciel. Après avoir reçu le don descendant du ciel, et qui se reçoit en même temps comme le plus petit, le plus pauvre, et en même temps comme l'ange, comme Dieu lui-même, le Verbe de Dieu l'illumine. C'est pour ça que c'est dit dans l'Apocalypse que ces enfants-là sont des martyrs, non pas du Christ, mais du Verbe de Dieu. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas baptisés. On les baptise si on veut. C'est pas vrai. L'Église, non, vous ne les baptisez pas. Ils ne sont pas des disciples non plus. Ils ne mettent pas les pas dans les pas de Jésus. C'est l'agneau qui trouve en lui, en eux, leur repos. Mais ils sont apôtres. Ça, oui. Parce que librement, hein, ils vont dire. Librement, ils vont dire comme ça dans la lumière. Du Verbe de Dieu qui les illumine dans la splendeur d'une lucidité et d'une naissance, si je puis dire, à cette lumière qui les illumine au moment de la propagation du péché originel. Ils disent oui, à la fois, à la misère que représente la propagation du péché originel, d'assumer précisément la mort immédiatement, mais avec l'amour du Verbe de Dieu spirant toutes choses. Amor, verbum spirans amorem. Respirant l'amour, et ils peuvent recevoir, ils peuvent naître à cette vie éternelle, ils peuvent y acquiescer, et on voit bien, l'Apocalypse dit, ils ne sont pas martyrs de Christ, ils n'ont pas été mis à mort à cause de Jésus, mais ils ont été mis à mort à cause du Verbe de Dieu. C'est les apôtres de la transverbération. C'est les apôtres qui sont apôtres finalement avant d'être disciples. Et d'apôtres, ils deviennent disciples avec nous par le fruit des sacrements. Et ils vont partout où l'agneau va dans la nature humaine pour sanctifier, pour mériter, pour ceux qui ont soif de baptême comme ils pourraient avoir soif de baptême. C'est l'occasion, hein, finalement, hein, quand on a les apôtres Simon et Saint-Jude, c'est de percevoir un peu, au moins un peu, quoi, ce qui se passe dans leur esprit, ce qui se passe dans leur cœur, ce qui se passe dans leur âme, ce qui se passe dans l'espace spirituel de leur matière vivante, extasie dans l'ouïe, mais confrontée. Mystère, comme dirait le pape Jean-Paul II, dans leur innocence divine originelle, ils sont confrontés immédiatement à l'horizon de la mort, à l'horizon presque immédiat de la mort. Alors ils disent, voici, le Verbe de Dieu avant de s'incarner, il dit, voici, je viens pour faire ta divine volonté. Et quelque part, et leur vie, c'est une vie nouvelle. C'est une vie, oui, parce qu'il y a leur propre vie. Et puis il y a le verbe de Dieu qui les illumine de manière vivante. Alors, il y a une possibilité dans leur naissance à l'existence, d'aller dans les bras du Verbe de Dieu qui descend, pour qu'ils puissent remonter, et remonter avec tout l'univers à l'intérieur de Dieu. Ce sont vraiment des apôtres. Je ne crois pas personnellement qu'un apôtre puisse être choisi comme apôtre s'il n'a pas quelque part en lui-même déjà d'avance dit oui pour que recevoir la grâce qui correspond et l'appel qui est inscrit. C'est pour ça que j'admire, moi, chacun des enfants qui a été avorté et broyé dans les laboratoires des abominateurs. J'admire, on peut admirer chacun d'entre eux comme étant les êtres humains les plus exceptionnels, les plus admirables. Ils ont été mis à mort à cause du Verbe de Dieu. Et c'est beau. C'est pas seulement beau, c'est magnifique. Alors, une fois dans cette disposition, oui, ils vont recevoir les temps, les chutes du Niagara, de la grâce eucharistique, des fruits du sacrement de baptême, des fruits du sacerdoce, dans cette charge d'illuminer silencieusement la vérité venue d'en haut. Toute la nature humaine, monos, de régner aussi, comme roi fraternel de l'univers à travers tous ceux qui ont été choisis pour être disciples baptisés. Il faut voir à ce moment-là comment, j'allais dire, ils reçoivent à partir de cet apostolat tous les autres déploiements de la grâce. Mais ce qui est premier en eux, c'est qu'ils sont apôtres. Pour ça, j'hésite pas à dire que les apôtres pour la fin des temps, c'est eux, évidemment. Tu peux pas faire plus proche de l'Immaculée Conception, même s'ils ne sont pas immaculés dans leur conception, par définition. Ils sont très très proches, par contre, de la sponsorité de Joseph et de Marie. Dans l'au-delà de l'unité des deux, en l'unique conception de l'au-delà de l'unité des deux, dès la conception de Saint-Joseph présente en Dieu. Là, ils sont tout proches de ça. Sinon, je ne vois pas très bien comment ils auraient pu basculer dans le Verbe de Dieu pour aller avec lui dans l'acquiescement divin et surnaturel, contemplatif et mystique, pour aller avec lui vers le mystère de l'incarnation. Au fond, c'est toujours la même chose, hein. Finalement. Mais il y a une chose que je me demande tout de même, c'est une fois qu'il y aura eu ces trois sauts d'Apocalypse. Le cinquième saut, enfin, ce déploiement, cette possibilité, ces retrouvailles avec la maîtrise totale derrière, en plénitude, accomplie de notre liberté dans l'ordre du don, de notre liberté du don, de notre innocence originelle, de notre oui, ressuscité pour ainsi dire. Hein? L'ouverture du bac à conception de sa propre plénitude pour qu'elle soit partagée par toute la nature humaine en même temps qu'elle. Parce qu'on va être visité, cette visitation de l'immaculée conception dans notre conception, en même temps que dans toutes les autres conceptions, pour que la nature humaine soit une seule colonne dans le temple de Dieu. La question que je me pose quelquefois, c'est ça. Et c'est ce qu'il y aura encore de livré dans ceux qui disent oui. Est-ce qu'il y a encore de livrer? Est-ce qu'il n'y aura que le bon grain, oui, c'est ce que je veux dire. Ce serait merveilleux, en plus. Et plus d'ivraie du tout. C'est pas mal, ça, comme que... Ce serait beau, hein. C'est une hérésie condamnée par l'Église, donc... Donc, comme ça vous êtes tranquille, n'est-ce pas? Ça s'appelle l'illuminisme. Il y aura toujours le méchant. Jusqu'à la fin du monde. Donc il y aura toujours cette possibilité de revenir quelque part dans quelque chose d'autre que le Fils de l'homme avec les anges qui descendent et qui montent au-dessus de lui. Il y aura toujours cette possibilité de laisser échapper quelques instants comme ça. Quelques instants. Pour qu'il y ait un petit peu de méchant qui nous rentre dedans. C'est pas exprès qu'on le fera. Mais dès qu'on ouvre la fenêtre, paf, c'est la puanteur du méchant qui rentrera. Ce sera toujours possible. Le filet du chasseur s'est rompu et nous pourrons échapper. Nous pourrons échapper. Mais quelqu'un qui est sorti, qui a échappé du filet du chasseur, il pourra très bien, cette espèce de stupide, idiot, redescendre dans la cuve en dessous du filet. Parce qu'il y a du grain dedans, vous comprenez? C'est comme ça qu'on les a attrapés. Vous savez comment on attrape les oiseaux? C'est facile, hein. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller au supermarché. Voilà, ils pêchent, ils ont leur petit, ils ont leur gros poisson, ils ont de quoi se nourrir sans problème. Ils ont leur poulailler, ils ont pas de problème. Et à l'époque d'Israël, tu mourrais jamais de faim puisque tu faisais un petit bac de rien du tout, hein, avec du grain dedans. Voilà. Les oiseaux venaient par centaines, là, dans un truc d'un mètre carré. Hop, un filet par-dessus, ça y est. T'avais de quoi manger pour un mois. Et ne vendons pas trois manneaux pour un as, c'est-à-dire pour un centime. Alors, bien sûr, échapper. Le filet du chasseur, c'était serré, nous pourrons échapper. Mais il y a encore le grain là au fond. On pourra y revenir, hein, pour ouvrir la fenêtre. Si on s'intéresse aux choses de la terre, hein, on pourra y revenir. On pourra. Mais ce sera bien bécasson de faire ça. Hein. On pourra s'occuper, c'est pas moi, de ses chaussettes. Mais surtout, ce qui compte quand même, il me semble, c'est que dans la Jérusalem spirituelle, dès qu'on voudra vivre de la grâce, on ne pourra pas faire autrement
que de voler à partir de cette espèce de base, la substance divine dans le verbe de Dieu et de la transverbération. C'est de là, à partir de là, qu'on pourra voler dans le mystère de la grâce. En dessous de cela, je crois que ce sera pas possible. Autrement dit, la vie mystique, la vie contemplative, la vie surnaturelle va devenir une respiration nécessaire. Il y aura un lien de nécessité entre la grâce sanctifiante et la vie contemplative, unitive. Extraordinaire, par exemple, de s'endormir le soir. Tu t'endors, tu ronfles, c'est très bien. Mais, tu ronfles, mais tu es emporté dans la cinquième demeure. Au moment où tu t'endors. Magnifique, ça. Et parce, l'arrivée de la cinquième demeure, c'est facile. C'est un clapet qui s'ouvre et... Pop. Ça y est, tu es dans la Jérusalem spirituelle. Ça se fait comme ça. À un moment donné, hein, peut-être la 20e minute, mais... Plop. C'est marrant parce que ça vient pas de toi. Hein. Ça... Et... Clac, ça y est, tu es dans la coupe de la nature humaine entière. Et tu reçois l'amour brûlant et la grâce de Dieu à l'intérieur de la nature humaine entière. Et c'est Dieu qui fait ça, pour pas dire toi tu as disparu, disparu dans l'au-delà de l'indivisibilité de l'un, de l'unité de nature substantielle de Dieu. Et c'est Dieu qui fait tout, mais en tout cas, tu ne peux pas ne pas le voir, que Dieu passe et fait toi un instrument divin de son éternité dans le temps. La Jérusalem spirituelle exhale sans parfum, quoi. Au-delà, bien au-delà de l'Arche d'Alliance et du Saint-Dessin. Vous avez le diamant du Saint-Dessin, si vous voulez un schéma bas. Vous avez le diamant universel du Saint-Dessin. L'Arche d'Alliance dans le Saint-Dessin. L'autel, l'Arche dans lequel vous pénétrez. Et puis, si vous êtes dans le fruit de la mission invisible, des personnes divines dans votre âme, de l'Esprit Saint et du Verbe de Dieu, en un seul acte, en une seule mission, alors vous avez la cinquième demeure, vous avez la sixième demeure, la septième demeure, l'union parfaite. Et puis, vous savez, garder l'union avec Dieu, ce n'est pas une chose difficile, même de manière contemplative. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas comme ça, voilà, les yeux exaltés, en extase, en ravissement. Non, ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est charismatique, ça. L'extase charismatique, ce n'est pas l'union extatique surnaturelle de la transverbération, attention, attention. Quand quelqu'un est là et puis et il est saisi en Dieu, en Jésus, dans l'Esprit Saint, tu as beau le brûler avec des cigarettes, il sent rien. Ça, c'est charismatique, ça. C'est pas une grâce d'union. C'est pas une grâce d'union, du tout. C'est une grâce d'apparition, elle ne sanctifie pas. La grâce d'union est une grâce qui sanctifie. C'est pas une grâce transitoire, c'est une grâce habituelle. C'est une grâce qui ne diminue jamais. Et c'est bien que tu gardes l'union avec Dieu, avec cette grâce. Et tu parcours, tu dors, tu manges, tu bois, et tu gardes l'union avec Dieu dans l'union d'abandon. La porte, c'est l'abandon. Et tu respires continuellement dans le soleil, qui resplendit dans le soleil. de l'amour éternel de Dieu. Tu es toi-même ce soleil. Et puis, c'est vrai, tu peux, ça peut arriver, que sous l'effet de je ne sais pas quoi, d'un petit quelque chose, un coup de butoir, un mauvais coup du malin qui sait par où il faut frapper, etc. Tu quittes l'union avec Dieu. Tu vas quitter l'union avec Dieu. Et même si c'est pas un très gros coup de butoir, même si c'est pas, même si c'est quelque chose d'infime, humainement rien du tout, mais tu quittes l'union avec Dieu. Pendant quelques minutes, Saint Ignace de Loyola avait ce sens-là. Si tu dois t'abandonner quand même à la vie en Dieu et garder l'union continuelle avec Dieu. Le fameux principe et fondement de Saint Ignace de Loyola. Hein, l'exercice qu'on a fait pour le carême. Avec ce principe et fondement. Rester une heure avec le principe et fondement de Saint Ignace de Loyola, c'est beau ça. Faut avoir fait ça. Ouais. C'est bien de faire ça au moins une fois dans sa vie chaque année, quoi. Un jour avec le principe et fondement de Saint Ignace de Loyola. C'est vrai. Et tu vis uniquement dans l'abandon. Tu n'es que pour l'unique gloire de Dieu. Tu as été créé pour uniquement derrière de Dieu, faire que Dieu glorifie Dieu. Pour le servir, l'adorer, servir d'instrument. Dieu. Et il dit, pour repérer les. Il se fait des exercices et pour repérer que. Pour repérer quoi, que tu es en dehors du principe et fondement. Tu vas faire une confession générale. Tu vas faire une confession particulière. Vous avez tous fait les 30 jours d'exercice de Saint Ignace, je suppose. Non, sauf bien sûr certaines personnes, mais normal. On ne peut pas s'occuper ses chaussettes et puis en même temps faire l'exercice. Donc, c'est, il faut choisir quelquefois. Et les choses de la terre, c'était. Et alors il dit, je perds l'union à Dieu, oui, c'est facile. Et il propose l'exercice suivant. Pour tous les jésuites, enfin je veux dire, pour tous ceux qui veulent être de la compagnie de Jésus, tous ceux qui veulent être les compagnons de Jésus, ceux qui veulent être dans l'union avec le Verbe de Dieu. Il dit, le soir, tous les soirs, faites un examen de conscience. C'est de là que ça vient, hein, l'examen de conscience du soir. Ça vient de Saint Ignace, de Loyola. Faites l'examen de conscience. Et repérer à un moment donné, depuis le matin, le réveil. Parce que chaque matin, j'ai une grâce. Chaque matin, l'enfant de Dieu, bon Dieu ne permet pas qu'un enfant de Dieu se réveille sans la grâce. Parce que le matin est comme marqué par la résurrection de Jésus, de Joseph, et fait que du coup, dans le cycle du temps, il y a une grâce de résurrection. Saint Augustin explique ça. Il y a un changement dans le rythme de la grâce depuis la résurrection de Jésus et de Joseph. Bon, Joseph, c'est moi qui rajoute. Saint Augustin ne parle pas de la résurrection de Joseph. Mais c'est lui qui explique le matin, par exemple dans le but, vous voyez, le matin, je me tourne vers toi, ça veut dire, le matin, c'est, je suis envahi par une grâce qui vient de la résurrection de Jésus. Quand Jésus est ressuscité, son corps qui était là dans le tombeau a trouvé une agilité, une subtilité, une luminosité, une vie corporelle qui fait qu'il pouvait aller partout, dans tous les lieux, dans tous les temps, c'est là ce qu'il était, avec sa lumière et avec l'incarnation de son corps vivant matériel, matériellement parlant. Et l'incarnation de son corps a habité tous les lieux, tous les temps, tout l'univers. Et a déporté sa cellule. Il y a encore quelqu'un qui a oublié ses chaussettes. C'est à toi, ça. Bon, je sais plus où vous en étiez. Ça, c'est l'esprit du monde. Tu vois, les fenêtres s'ouvrent. Hop, le méchant.
La France du matin.
Il prend tous les
éléments. Non seulement ça, c'est l'Anastase. C'est l'Anastase, c'est l'exercice. Jésus s'est levé d'entre les morts. Il a habité tout l'espace. Il a même fait déborder. Il a même déborder. Tous les temps, tous les lieux. Son corps a venu traverser tout. Puis il l'a débordé, puisqu'il est rentré même dans l'univers qui est au-delà de l'univers, d'un monde qu'on appelle ça le monde de la résurrection. Et donc il a créé le monde de la résurrection qui lui-même est porte ouverte vers le monde incréé de Dieu. Ouais. Donc il y a trois invasions et transformation transsubstantielle du Christ au moment où il ressuscite. Hein? C'est pour ça qu'on dit dans la Bible, exercice, il est ressuscité. Egerte, il est ressuscité. Et puis Anastasis, Anastaste, il est ressuscité. Exercice, c'est qu'il a traversé tous les éléments du monde, tous les éléments corporellement. Mais il ne s'est pas arrêté ça, il ne s'est pas arrêté là puisqu'il a été dans l'Anastase. Mais il est passé à travers tout ça, donc il a fait, en traversant tous les éléments du monde, notamment le rythme du temps, il a laissé une présence de sorte qu'à chaque fois que tu te réveilles le matin, bon, tu ne permets pas que tu ne te réveilles pas sans une grâce de résurrection de Jésus. Une trace vivante de la résurrection. Donc Saint Ignace de Loyola a dit, c'est vrai, vous ne vous êtes jamais réveillé. Je pense pas. Vous n'êtes jamais réveillé en disant je vais tuer ma femme. C'est plutôt le soir, ça. C'est vrai, c'est aussi, mais je m'aime, c'est la fin de la journée. Mais la résurrection, c'est au début. Et voilà, et donc, quelque part, Saint-Ignace, il dit, vous repérez depuis le premier moment de la journée, voilà, vous priez, bien sûr, vous priez au début du matin, bon, surtout, il s'adresse quand même à des gens qui ont été choisis, des disciples, des gens qui ont dit oui, qui confessent, hein, quand même, le mal pour ne plus être dedans. Donc ceux-là, quand ils se réveillent, ils ont une grâce de résurrection. Ils ont de bonne volonté, ils ont forcément une grâce de résurrection. Et donc, vous leur dites, examen de conscience, vous repérez. Et vous regardez, heure après heure, si vous le voulez, si vous pensez que c'est mieux, parce que c'est possible pour vous, toutes les 10 minutes, là, qui, votre réveil, et vous repérez l'instant dans la journée où vous avez pour la première fois quitté la présence de Dieu. Est-ce que c'est à cause du café ? Est-ce que c'est tout de suite, vite, il faut mettre la radio. La première fois, dans la journée où vous avez quitté la présence de Dieu. Parce que ça, c'est extrêmement facile à repérer. Vous le faites le soir, on pourrait dire, si vous êtes... pas purifié du tout, vaut mieux peut-être faire dire, ben tiens, je vais faire mon examen de conscience, voilà, à la fin de la matinée par exemple, mais repérer quand j'ai quitté la présence de Dieu, ça c'est extrêmement facile, parce que c'est tout à fait différent quand je suis en présence de Dieu, puis, ah, je fais quelque chose, Tiens, il y a quelque chose qui m'énerve. Je pense à cette chose qui m'énerve, qui m'exaspère. Je quitte la présence de Dieu. Et puis après, je pars au boulot. Mais peut-être que je suis parti au boulot avec la présence de Dieu, avec mon chapelet dans la main dans le métro, mais bon, alors je quitte la présence de Dieu à quel moment? Je ne sais pas. Vous voyez? Et non, parce que je n'ai pas quitté la présence de Dieu, parce que je suis tout tendu vers la messe à laquelle je vais aller à midi. Sur les Champs-Élysées, voilà, il y a la messe à Saint-Pierre-du-Gay. Saint-Pierre-du-Sayot, là, très bien. Je vais vite à la messe Saint-Pierre-du-Sayot, tout tendu, puis après à la communion, puis après à chemin de croix. Vite avant de rentrer au bureau pour refaire mon boulot. Mais il y a un petit repas, un petit pique-nique avec tous ceux qui sont été avec moi à la messe. Allez. Alors ça c'est beau là. On est tout content. Voilà, puis on vient au travail. Mais au travail, après, bon, il y a un moment où on se dit, tiens, c'est vraiment des mecs pitoyables ceux qui travaillent avec moi là, mon Dieu. Quelle bande de pécores. Je quitte la présence de Dieu. C'est extraordinaire. Voir à quel moment je quitte la présence de Dieu. L'union avec Dieu. C'est très facile. C'est très facile. Et comme tu le fais tous les jours, qu'explique Saint Ignace de Loyola, comme tu le fais tous les jours, examen de conscience, tu repères finalement quel est ton péché mortel. C'est-à-dire celui qui te fait sortir de l'union parfaite avec Dieu, l'union d'abandon. C'est peut-être grâce à ça qu'on peut repérer quel est celui des sept péchés capitaux qui est le mien. Est-ce que vous avez songé un jour qu'il fallait peut-être confesser son péché capital? Alors, est-ce que mon péché capital, c'est la paresse? L'envie? Vous comprenez? La colère? C'est lequel, celui de cette péché capital? L'avarice? C'est lequel? Alors, Saint Ignace propose ça. C'est pour ça que les jésuites, celui qui est de la compagnie de Jésus, ce qui compte pour lui, c'est pas de manifester la splendeur surnaturelle, le rayonnement et l'extase, le ravissement en harcelant les autres parce qu'ils sont pas dans ce type de rayonnement charismatique. Non, eux, ils gardent l'union avec Dieu. Et ils ne quittent pas l'union avec Dieu. Et avec l'union avec Dieu, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Tout. Mais ils ne quittent pas l'union avec Dieu. Ils sont dans une union d'abandon. D'abandon. Et s'il y a un mouvement dans la journée qui leur fait quitter la volonté de Dieu, c'est un peu comme nous, comme on constate le premier mouvement qui nous empêche de nous enfoncer à l'intérieur de l'union transformante. Pour un Jésus, c'est aussi facile que pour quelqu'un qui fait oraison de repérer le mouvement qui apparaît dans l'oraison, qui me fait quitter cette admirable envolée dans l'union transformante. Mais les deux vont ensemble, évidemment. Dans la journée, à un moment donné, quel est le mouvement qui? Et à force d'en prendre conscience le soir par l'examen de conscience, à force, le lendemain, je fais peut-être un tout petit peu plus attention. Au bout d'un mois ou deux mois, je repère immédiatement, une fois que j'ai à nouveau ce mouvement de séparation de l'union avec Dieu, alors que normalement, et je m'en rends pas compte. Mais si je suis éveillé spirituellement, si je suis responsable spirituellement, si je veux retrouver ma liberté d'homme, ma liberté humaine spirituelle, de respirer spirituellement, si je fais cet examen de conscience, petit à petit, je vais repérer tout de suite, ah, je vais quitter la nuit, mais je ne vais pas y rester comme ça, je ne vais pas attendre le soir, 6 heures après, pour retrouver, demander pardon. Hein. Non, je m'en petit à petit, je vais le repérer assez vite. Et puis, vite revenir avec l'union avec Dieu. Et puis, au bout d'un certain temps, il n'y aura plus de moments, petit à petit, où les espaces seront très, 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 très courts. Alors là, je suis aux portes de la cinquième demeure. Oui. C'est bien. C'est un petit résumé très, très... très résumé. La spiritualité de Saint-Ignace, de la liberté, quoi. De la liberté en Dieu. Et puis de l'union à Dieu. Ce croisement et cette espèce de rencontre prodigieuse entre Saint Jean de la Croix et Saint Ignace de Loyola, c'est merveilleux. Et puis les deux ne font qu'un, en fait, bien sûr. Parce que ce qui compte, c'est que l'union doit rester continuellement en Dieu. C'est pour ça que dans l'Antéchrist, à l'époque de l'Antéchrist, dans le cinquième sceau, jusqu'au sixième sur l'Apocalypse, où il va disparaître totalement. Eh bien, on sera en même temps Saint Ignace et en même temps Saint Jean de la Croix. Parce que ça ne se verra pas. Parce que quelqu'un qui s'arrête pour faire oraison doit un sacrement exposé, ça se voit. Moi, je me rappelle ma mère, quand j'étais dans le jardin à Sorèze. Je restais assis là. Et puis, bon, c'était. Et puis, elle me voyait un quart d'heure, une demi-heure. Une heure. Puis elle venait me voir, inquiète. Elle dit, mais. Qu'est-ce que tu fais là? Mais, je disais, ben, je fais rien. Mais. Tu penses à quelque chose au moins, tu... Non, je pense à rien. Tu ne penses à rien. Là, tu fais rien? Ben non, je fais rien. Et mais qu'est-ce que tu fais exactement? Ben rien. Mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Si c'est possible, bien sûr que c'est possible. Mais ça se voit, vous comprenez? Ça choquait ma mère. Ça se voit. Donc il faut être ignatien. Saint Jean de la Croix, oui. Quand c'est possible, quand personne ne te regarde, quand ça ne se voit pas, alors Saint Jean de la Croix. Mais quand tu es au milieu du monde, que les gens te regardent, bon, c'est pas exactement ça, hein, mais c'est pas uniquement ça. Hein, alors ça ne se voit pas. C'est l'union avec Dieu. Et tu quittes pas l'union avec Dieu. Ça, c'est possible. Ce sera possible, voyez, après. Ce sera possible d'une manière extrêmement aisée, facile, simple. Extrêmement simple. Liquéfiante, limpide, pure. Et continuer après l'avertissement. Mais on pourra quitter l'union à Dieu, ça oui. Et à chaque fois qu'on quittera l'union avec Dieu, que ce soit dans l'oraison, secrète, profonde, surnaturelle, violente, ou tandis qu'on est dans le monde, qu'est-ce que vous voulez à ce moment-là, c'est vrai. Ce sera autant de temps perdu. Et les 19 ans vont passer, mais seront décomptés les temps où on aura échappé. On sera revenu à l'intérieur du bac, en dessous du filet. Ce temps sera décompté. Et quand on devra être emporté pour les noces de l'agneau, eh ben, l'autre sera pris, mais moi, je serai laissé. Parce qu'il manquera beaucoup de choses à purifier, un certain nombre de choses à purifier. Donc un sera pris, l'autre laissé. Je veux dire par là, l'union parfaite avec Dieu est de nécessité, de, non pas de salut, mais elle est de nécessité, de grâce d'union avec Dieu, dans la Jérusalem spirituelle. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ça... Là, par exemple, si on faisait l'exercice avant chaque messe, c'est bien pour ça de venir avant, un peu avant à la messe. On s'arrête, on a 3, 4, 5... Normalement, le pape demande une demi-heure. Bon, mais pour les gens fatigués... Ils peuvent venir une heure avant, parce qu'ils mettent une heure, une demi-heure, une heure avant la messe, c'est mieux. Ils vont à la chapelle, à l'église. S'ils sont fatigués, une demi-heure pour se reposer, sentir un peu moins l'écran, puis une demi-heure pour se préparer la messe. Bon, pour les gens qui ne sont pas du tout fatigués, qui sont dans l'union avec Dieu, ça va, allez, un quart d'heure, à la limite. Vous, c'est votre cas, bien sûr, puisque je vois que vous arrivez 5 minutes avant. Donc vous êtes très au-delà de l'union parfaite, donc pas de problème. Mais voyez, regardez, qu'est-ce que vous faites avant la messe? C'est magnifique ça. Vous savez, la spiritualité du pape, ainsi de suite, c'est pas un petit truc. Hein. C'est fort. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien voilà, faites un examen de conscience. Il n'y a qu'à faire un examen de conscience, après tout. Pourquoi pas? Juste avant la messe. La deuxième messe, allez. Voilà. J'ai quitté l'union à Dieu depuis la dernière fois où j'étais comme ça en union avec Dieu. Est-ce que j'ai quitté l'union à Dieu à un moment donné? J'ai été vexé. Et puis jusqu'à maintenant, au moment où on revient à la messe, ben j'ai quitté l'union avec Dieu. C'est marrant parce que ça, on baisse d'un étage, mais comment on ne revient pas? Pour faire les 12 pardons, hein, entre guillemets, de manière fulgurante, mais on ne retrouve pas l'union avec Dieu. Voilà. Et bien on peut le faire, ça. Ça, c'est facile à faire. Et si on fait ça, et bien tous les jours, on repère où est-ce qu'on a quitté l'union avec Dieu. On repère à quel moment c'était méchant. On finit par repérer. Et de jour en jour, on accumule les jours et finalement, on a une matière pour la confession. Depuis la dernière fois, je ne me suis pas confessé depuis 15 jours. Eh bien, j'ai quitté l'union avec Dieu 37 fois. Et je sais ce que je confesse là. Et sur les 37 fois, c'était à chaque fois. Parce que j'étais vexé, par exemple. Susceptibilité. Voilà, parce que j'ai vu quelqu'un, j'ai eu un mouvement de jalousie. Et je peux dire à ce moment-là, je peux le dire, je peux confesser. Je vous ai déjà dit une fois qu'une de mes premières confessions, c'était une petite Thérèse. Mais je ne l'ai jamais vue depuis. Une petite Thérèse de 16 ans. Je n'ai jamais vu depuis quelqu'un qui avait des larmes de contrition aussi pures, aussi abondantes. Jamais, je n'ai jamais vu ça. Et son péché, c'était ça. Elle avait laissé passer quelques instants de prière. Et elle en était démolie, broyée de l'intérieur. Et dans la Jérusalem spirituelle, le monde entier de la résurrection des morts à venir. la première résurrection, sera suspendu en membre vivant du corps mystique de Jésus vivant sur la terre. Suspendu. Et donc si on laisse passer quelques instants de prière, ce sera tragique. Imaginez une seule chose. Imaginez une seule chose. La tragédie des tragédies. Si pendant la demi-heure de l'avertissement, ceux qui ont été choisis quittent l'union avec Dieu pendant cette demi-heure, est-ce que nous mesurons la tragédie universelle que ça pourra représenter? Faut pas oublier ça. Et c'est ça, l'intention de la messe du soir. La messe Jean-Béla. Et c'est là le grand combat eschatologique. Il faut qu'on soit trouvé fidèle. Dans l'union parfaite avec Dieu. Au moins du point de vue du désir. La soif d'y être. Et de pouvoir, avec une violence terrible, chaque fois sortir de nous pour s'y plonger dans cet état, pour y être plongé, pour nous laisser assumer, emporter, pour y être plongé, pour y s'y retrouver encore, pour s'y immerger encore, jusqu'à ce que quelque chose se fasse et que l'union d'abandon s'opère. L'union d'abandon, si vous voulez, c'est le passage de Jésus agonisant sur la croix, souffrant horriblement, à ce moment où il s'enfonce dans la mort, dans la paix, dans l'union hypostatique désirée, un abandon total. Il n'y a plus que l'Esprit Saint et que lui a disparu. Cet abandon-là, qu'on trouve, c'est facile de s'y retrouver. Jésus, pour nous les chrétiens, c'est tellement facile. Plus aucun mouvement qui vient de Jésus dans son âme, dans sa vie humaine, dans sa nature humaine, dans son corps neuf. Son corps spirituel est entièrement pris par la transverbération et l'aspiration passive, agréée de Dieu. Son corps est le temple de l'adoration d'esprit en vérité. Et il y demeure. Il établit cette demeurance dans la transverbération du cœur de Marie. Et elle engendre en nous cette grâce d'union. Il ne s'agit pas, bien sûr, pour le moment de l'avertissement du sacrifice de la presse, d'être immaculé. L'illuminisme n'est pas une doctrine de l'Église. Mais, par contre, oui, d'être en union avec Dieu, parce que c'est Dieu qui fait tout ce que nous ne faisons pas, ça oui. Et heureusement que de temps en temps, il y a des mots. Parce que ces mouvements, au contraire, nous permettent de réouvrir les espaces sans limite et sans fin de ces mouvements contraires à Dieu pour la nature humaine tout entière, si on est en union avec Dieu. Si c'est instinctivement ce que nous faisons à chaque mouvement contraire. Donc l'ivraie restera toujours, parce que nous avons une grâce de co-rédemption, grâce à elle. petit catéchisme de la vie spirituelle. Oh, comme dirait le Père Emmanuel, je suis comme vous. J'ai pas encore commencé. Mais peut-être que je vais essayer de m'y mettre. Bon, je verrai ça demain. Jean, enfin, ne me juge pas. Vous savez pourquoi j'ai fait un sermon sur les jésuites? On dit société de Jésus est ceci. Vous avez compris? Saint Simon et Saint Jude. Et je dis pas ça pour plaisanter, c'est vrai, c'est à cause de Saint Simon et Saint Jude. Vous savez, ça se fait. C'est quoi ça, c'est pas une blague? Quelquefois, on sait pas d'où viennent les choses. Dans ma pauvre tête, c'était ça.
Sûrement parce qu'on en avait besoin.
Pardon?
Sûrement parce qu'on en avait besoin de l'entendre.
Ah ça, les intentions de Dieu, c'est autre chose.